Bonjour à tous, bienvenue au balado 40 ans pour elle de la Dauphinelle. La Dauphinelle est une maison d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales qui offre également une panoplie de services dans la communauté. Cette année, nous célébrons nos 40 ans d'existence et pour l'occasion, nous avons créé un balado composé de 5 épisodes qui aborderont différents thèmes reliés à la violence conjugale. Pour notre dernier épisode, nous entamons notre 5e décennie en discutant avec 2 survivantes de violences conjugales. Nous entendons beaucoup parler des formes de violences graves dans les médias, comme les féminicides. Mais qu'en est-il lorsque la victime survit? Notre première invitée se nomme Kaoula. Elle nous a autorisé à donner son vrai nom. L'histoire de Kaoula est très simple. Après avoir séjourné avec sa fille de 2 ans à la Dauphinelle, elle a trouvé un nouvel appartement. Son ex-conjoint l'a suivi. Il a trouvé l'adresse. Le 15 décembre 2019, nous attendions Kaoula et sa fille pour la fête de Noël de la Dauphinelle. Madame est rentrée de son travail pour se préparer. Monsieur était cassé dans son garde-robe. Il l'a agressée sexuellement. Il a tenté de la tuer devant leur fille. Madame s'est enfuie. Il s'est suicidé dans son domicile. Madame souligne le soutien incroyable qu'elle a reçu des policiers et ambulanciers qui lui ont porté secours. Elle témoigne aujourd'hui de son parcours. Bonjour, Kaoula.
Bonjour.
Comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien. Toujours une journée à la fois. On avance prudemment et doucement, puis ça va bien.
Effectivement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Moi, je vais me concentrer vraiment sur le « après ». Parce que plusieurs personnes, puis on l'a abordé dans nos épisodes précédents, plusieurs personnes vont dire « Ok, la violence conjugale, c'est ça, ça va toucher les enfants de telle manière, et puis, ah, il y a des démarches pour le divorce, la garde et pour la plainte criminelle. » Mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a passé en maison d'hébergement, qu'on est allé voir les services? Comment est-ce que t'as vu ton parcours une fois que t'es sorti de la maison d'hébergement, là, le jour où t'as quitté notre maison d'hébergement?
Ben, la journée que j'ai quitté la maison d'hébergement, c'est comme un nouveau départ, c'est comme beaucoup d'insécurité, comme c'est tout est nouveau pour moi, tout est nouveau pour ma fille, le changement de la garderie à plusieurs reprises.
Et surtout, dès qu'on sort de la maison d'hébergement, on brise la routine qu'on avait en maison d'hébergement.
Oui, on brise la routine, on doit être, mais à la maison d'hébergement, on est quand même autonome, mais on doit s'attendre que nos portes sont fermées, puis on est les anges gardiens de nous-mêmes puis de nos enfants. Il n'y a pas les portes de la Dauphinelle qui nous protègent. Alors, c'est un gros défi, comment on va se protéger, comment on cache notre adresse. Puis avec ça, on doit rester comme les yeux ouverts, presque 24 sur 24.
Puis les gens sont peut-être un peu moins au courant de c'est quoi la violence en post-séparation, qu'est-ce qui se passe une fois que le couple n'habite plus ensemble. Est-ce que toi, tu étais au courant de la possibilité que la violence continue après ta séparation?
Oui, la preuve que quand j'ai senti vraiment le danger, j'ai appelé SOS Violence Conjugale, puis c'est eux autres qui m'ont référé à la Dauphinelle. Alors oui, je sais que ça existe, surtout que cette personne-là n'accepte pas la séparation. Alors pour cette personne, l'ex-conjoint ou le conjoint ou le mari qui accepte pas la séparation, ben, il va se comporter comme si vous êtes encore ensemble malgré les interdictions, malgré que vous êtes déménagé, malgré que vous répondez pas au téléphone, ben, cette personne-là, elle va toujours penser que vous êtes là. Tout ce que j'ai enduré, c'est comme je l'endure plus. J'endure plus que personne m'insulte. Dans une autre vie, j'allais me dire, OK, c'est pas la fin du monde, mais c'est juste pour vous dire à quel point qu'on est traumatisé. Ça nous rappelle plein de choses. Alors, tout en décidant de ne plus accepter ça, c'est de me protéger, de ne plus me plonger dans ces souvenirs-là. Quand t'as vécu avec quelqu'un agresseur, ben le cycle de la violence là, c'est comme à un certain moment il va revenir, il va s'excuser, après il va te manipuler tout ça. Ben la manipulation dans tous les genres, je suis rendue très bonne pour détecter cela au plus vite. Alors je pense selon moi, d'après il y a certaines valeurs qui sont très importantes pour moi et je vais les défendre jusqu'au moins dernier souffle, là, comme on dit.
Est-ce que, parce que votre fille était quand même jeune, on sait qu'il y a des conséquences sur les jeunes enfants, là, de la violence conjugale, est-ce que maintenant, on est environ 2 ans plus tard, que vous pensez que votre fille a encore des conséquences ou vit avec les conséquences?
Absolument, absolument. Je suis en contact toujours avec l'équipe psychologue de Sainte-Justine. Et oui, elle a des conséquences, l'insécurité. Alors oui, n'importe quel changement, mettons, en aller en vacances, là, c'est comme tout est nouveau pour elle. Puis là, elle veut être toujours sur moi comme un bébé.
Si je me mets à la place de quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine de la violence conjugale, je me dis, voyons donc, cette femme-là a pris sa force de où? Comment elle a fait pour s'en sortir? Qu'est-ce que vous répondriez à ça?
Mais ce que je réponds toujours à ça, c'est comme l'amour inconditionnel pour ma fille, je pense... Elle a rien demandé. Elle s'est trouvée dans cette vie-là déjà. Déjà qu'elle a perdu déjà son père malgré tout. Je trouve ça triste parce que moi, quand je me suis mariée, je voulais faire qu'on fasse une famille. Je voulais pas que ma fille soit sans père. J'ai décidé de donner l'exemple à ma fille, puis de me lever, puis d'aller travailler, puis de lui montrer que on doit travailler, puis on doit... J'ai lu un jour dans un article quelque chose qui dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que j'ai choisi d'être ». Alors ça, j'ai vraiment beaucoup pensé à ça, puis j'ai choisi d'être une bonne maman. J'espère que je le suis. J'ai choisi d'être un bon exemple à ma fille, puis j'ai choisi d'être un bon exemple pour mes étudiants, puis une bonne personne. Alors, c'est ça ce que j'ai choisi, puis je travaille au quotidien pour l'être. C'est vraiment pas facile au quotidien. J'ai toujours des flashbacks dès que j'ai une porte de garde-robe qui est ouverte, dès que j'ai une lumière de fermée, dès que j'ai un instant libre dans mon cerveau à moi-même. Je me suis dit, je vais vivre une journée à la fois. Je sais pas, c'est comme, il y a une force qui me disait, une journée à la fois, Kaola, tu peux pas aller au-delà parce que tu vas t'enfarger, tu vas tomber, tu vas te casser, tu vas mourir, tu vas...
Ouais.
Puis là, malheureusement, le système est fait, tu dois te protéger, tu dois protéger tes enfants. Je trouve que cette personne-là, l'agresseur, il circule en liberté. J'ai encore de la colère contre le système. Es-tu où quand lui était caché dans mon garde-robe?
C'est un excellent point que vous amenez. J'aimerais conclure cette partie du balado en vous demandant, en fait, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui nous écoutent, qu'elles soient victimes ou non victimes?
Le premier pas vers, comment dire, vers la guérison, vers la sortie, vers la porte de sortie, le premier pas vers la porte de sortie, ayez pas honte, puis parlez. Parlez à un ami, parlez à un collègue, parlez à un intervenant, commencez par parler. Parce que quand vous commencez à parler, la voie sera bientôt libre pour sortir de ce cauchemar-là. Parce que quand on parle pas, puis qu'on a honte, on va rester enfermé, puis on va rester enfermé encore, puis c'est qui va nous payer? C'est nous, c'est nos enfants. Puis c'est plus nos enfants parce qu'eux autres sont... Nous, on est capable d'en prendre sur nous des fois. On est des adultes, on peut comprendre. Mais les enfants, des fois, ils peuvent déraper, ils peuvent décrocher, ils peuvent de l'école. Tout ça parce qu'eux autres, ils n'ont pas cette maturité-là pour pouvoir comprendre.
Vraiment, merci de votre participation, de votre volonté à participer au balado.
Est-ce que je peux rajouter autre chose?
C'est incroyable. Oui, vas-y.
Alors, je veux juste rajouter quelque chose. La violence conjugale, c'est pas juste une chicane de couple, c'est pas juste une chicane banale, mais ça revient à notre société aussi. On a tous et toutes un rôle à jouer parce que si on va éduquer nos enfants, si on va parler avec nos enfants que la violence existe, alors ça sera jamais un sujet tabou, puis on va avoir une meilleure génération qui va avoir un plus beau avenir, mettons, sans violence.
Merci énormément, Kaola.
Merci.
Notre deuxième survivante a une histoire différente, mais tout aussi violente. Appelons-la Marie-Pierre, un nom fictif. Marie-Pierre vit avec son conjoint et leurs trois enfants. Le couple est originaire du Maroc et leurs enfants sont nés au Canada. Un été, ils rendent visite à leur famille au Maroc. Monsieur a secrètement planifié de ne jamais revenir au Canada. Madame s'en rend compte car monsieur lui vole ses passeports ainsi que ceux des enfants. Madame est donc prisonnière du Maroc et les enfants sont prisonniers d'un pays qu'ils ne connaissent pas. C'est à ce moment qu'elle trouve le courriel de la Dauphinelle sur Internet et qu'elle nous contacte. Elle fera des démarches avec l'ambassade du Canada pour revenir au Québec. Elle se rendra directement à la Dauphinelle car monsieur a vendu, à son insu, la maison familiale et tous leurs effets personnels. Marie-Pierre est présentement en démarche légale pour obtenir la garde de ses 3 enfants. Elle témoigne aujourd'hui et nous la remercions profondément. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour à toi. Bonjour à tout le monde.
Comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien, je te remercie.
Ça fait combien de temps que tu te considères sortie de la relation de violence conjugale?
Peut-être que ça va un peu t'étonner, mais on va dire que je ne suis pas encore sortie totalement. Il y a toujours comme l'ombre qui est là, qui peut sortir à tout moment. Donc pour le moment, je suis en train de marcher dans un chemin en essayant de vraiment quitter pour avoir une séparation vraiment concrète.
Vous dites que vous êtes encore dans la relation, ben dans la violence, à cause de la violence post-séparation.
Exactement, oui.
Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples aux personnes qui nous écoutent de qu'est-ce que vous vivez comme forme de violence en post-séparation?
En ayant des enfants en commun avec mon ex-conjoint, donc il y a toujours l'avis, ou ce qu'on peut dire avis, c'est comme monsieur peut toujours donner son opinion, et son opinion n'est pas toujours dans l'intérêt de l'enfant. C'est plutôt une opinion qui est comme pour manipuler, pour toujours avoir le contrôle, et c'est très difficile de subir ça encore quand on se dit qu'on est déjà sorti de là.
Ça serait quoi comme exemple, une décision, sans nécessairement briser votre confidentialité, mais un exemple?
La chose qui m'a vraiment touchée, moi, c'était par rapport à une situation de santé d'un de mes enfants, où il fallait vraiment que je fasse des examens de santé, et monsieur était comme... Il s'opposait à toute initiation, à toute présence, à toute... C'était très, très difficile pour avoir ce qu'il fallait pour l'enfant, question de sa santé.
Est-ce que vous considériez qu'il y a une différence entre la personne que vous étiez juste avant la séparation et la personne que vous êtes, disons, aujourd'hui? Donc, pour donner une idée aux personnes qui nous écoutent, ça fait quoi? 2 ans, peut-être? On entame la troisième année quand même! Ouais. Bravo! Est-ce qu'il y a une différence entre la personne que vous étiez, disons, au moment de la séparation?
Dirais que oui, et énormément. Je voudrais pas me jeter des fleurs, mais je vous dirais que je me suis retrouvée. J'ai retrouvé mon âme, j'ai retrouvé ma personne, et je n'étais pas très sûre de pouvoir y arriver à ce point. Là, après le recul, je me dis, je suis fière de moi. Je suis fière de ce que j'ai pu faire. C'est pas des très grands combats que j'ai réussi, mais c'est des petits combats, mais qui ont fait un effet immense dans la vie, au quotidien de ma vie, à moi et à mes enfants. Dans ma situation à moi, c'était très difficile parce que, on va dire que la séparation s'est faite en n'étant pas au Canada. Donc, j'étais à l'extérieur. Donc, déjà, le premier pas qui a été très difficile pour moi, c'est de prendre l'initiative et de retourner au Canada. Ça, c'était un grand pas. En étant seule ici au Canada, en n'ayant pas de famille, en n'ayant pas d'amis, ni d'entourage, et tout ça, c'était, avec le temps, j'ai compris que c'était ça l'emprise que monsieur avait sur nous. C'est comme être coupé du monde. Et ça, c'était la première et je dirais la plus difficile étape que j'ai pu franchir. C'est comme de prendre la décision que oui, je vais prendre l'avion, retourner au Canada, à mon pays, le pays où mes enfants sont nés, où ils se sentent chez eux. Malgré que j'avais contacté la Dauphinelle auparavant, ils m'ont rassurée. Je voyais où j'allais, mais pour moi, j'avais un numéro de téléphone. C'était très confidentiel. C'était prendre 3 enfants, monter à bord d'un avion et se retrouver à l'aéroport en sachant pas où aller parce que mon domicile était déjà occupé par d'autres personnes. Donc, c'était vraiment aller à l'inconnu, mais vraiment, je remercie la Dauphinelle parce que j'ai été accueillie, mais vraiment d'une façon comme si je retournais chez mes parents ou chez une famille ou des amis vraiment très proches. J'ai pas senti le fait d'être là comme étant étrangère où je n'avais pas ma place, moi et mes enfants. Loin de là.
Mm-hmm. Puis maintenant, 3 ans plus tard, est-ce que vous diriez que vous avez votre place au Canada?
Oh que oui, ouais. Là, moi, je vois la progression de mes enfants, je vois ma progression personnelle, je vois comment j'arrive à m'intégrer, à avoir des amis. C'est quelque chose que, d'extraordinaire que le Canada nous offre et que moi, pendant les 10 ans de vie commune, j'étais comme dans une bulle, que j'ai pas profité de tout ça en croyant qu'à l'extérieur, c'était vraiment désagréable, que c'était vraiment dangereux. C'est l'impression que monsieur nous donnait à chaque jour. C'est comme pour avoir de plus en plus de l'emprise.
Mm-hmm.
Ouais.
Il y a eu tout un travail de guérison à faire là, de la séparation jusqu'à maintenant, parce que t'imagines qu'il y a eu énormément de conséquences. Si jamais c'est pas trop délicat de vous demander, est-ce qu'il y a encore des conséquences de cette violence-là que vous vivez dans votre quotidien?
Oui. Moi, je pense pas que quelqu'un pourrait s'en sortir à 100%. Il y a toujours, parce que c'est des blessures, donc la blessure, même si maintenant elle ne saigne pas, mais il y a la trace qui te fait comme, qui te fait remonter le temps, qui te fait remonter tous ces sentiments que t'as vécu. Avec le temps, on arrive à pouvoir regarder ces cicatrices sans avoir mal et se dire ces cicatrices sont là parce que il fallait que j'apprenne quelque chose, il fallait que je me booste vers quelque chose pour avoir le meilleur pour moi et mes enfants. Donc il fallait que ces cicatrices soient là, qu'elles guérissent, mais qu'elles guérissent bien.
Mm-hmm. Est-ce que vous les considérez guéries?
Plus ou moins.
Ouais. Plus ou moins. Okay.
Plus ou moins.
Qu'est-ce que ça prendrait en fait pour qu'elles soient complètement guéries, si on dit ça là, un peu au hasard comme ça?
Oh, pour moi, personnellement, je dirais vraiment avoir mes enfants près de moi, loin du danger que leur père représente. Une fois que j'arriverai à faire ça d'une façon stable, là, je vous dirais que ces blessures-là ne me feront plus peur ni mal.
Puis les enfants, très brièvement dans tout ça, est-ce qu'ils vivent bien est-ce qu'ils vivent des conséquences en ce moment de tout ce qui s'est passé?
Au fait, je vous dirais que là, maintenant, présentement, ils sont soulagés. Ils admirent plus la façon dont on vit, l'harmonie qu'on a réussi à avoir, que ce qu'ils avaient auparavant. Mais au début, la déchirure était très flagrante. Perdre la seule personne avec laquelle ils vivaient, c'était moi et leur père. Donc, perdre le papa. Et puis, perdre leur maison, leur entourage, leur école. C'était une grosse, grosse déchirure pour eux.
Mm-hmm. Ah, c'est très difficile, effectivement, pour un enfant de perdre tous ses points de repère, là. Surtout après être revenu au Canada. C'est comme si on s'attend à revenir à la maison, mais on n'est pas à la maison, finalement.
Exactement, effectivement. Et ça, c'est comme les enfants, ils ont perdu, je veux dire, peut-être un truc qui peut paraître banal, mais ne plus avoir sa photo de naissance, ne pas avoir les photos de leur première année, leur deuxième année. C'est comme des souvenirs qu'on avait comme photo et puis tu as plus rien. T'as plus ton doudou préféré, t'as plus ta couverture que tu te mettais, t'as plus ton lit, t'as plus tes vêtements, t'as rien en fait. C'est comme si on était déraciné du jour au lendemain. Et ça, c'était très difficile pour les enfants.
Ça a dû être extrêmement difficile. J'imagine que vous avez reçu de l'aide aussi pour vos enfants. Autant à la Dauphinelle qu'à l'extérieur de la Dauphinelle. Exact. Nous non plus, on ne sert pas à se lancer des fleurs.
Mais moi, je ne remercierai jamais assez la Dauphinelle et chaque personne qui était à la Dauphinelle. Parce qu'à la Dauphinelle, j'ai appris à être moi-même, à ne pas avoir honte de ce que j'ai subi. Parce que c'est la chose la plus difficile de se dire, d'accepter d'être victime. Ça, c'est très difficile. Parce qu'à chaque fois que ça se passait, un incident, on va dire ça, une colère qui éclate de nulle part, une chicane qui se termine avec des claquages de porte, avec un coup sur le mur à côté de toi, à être étranglé devant tes enfants, tout ça, tu te dis, peut-être que c'est en quelque part moi qui a fait quelque chose pour que ça arrive. Et c'est très difficile de se sentir comme, non, j'étais pas fautif dans tout ça. Non, c'était moi la victime et je devais pas me donner encore plus de poids à soulever sur mes épaules parce que j'étais victime, moi.
Absolument.
Pourquoi je me suis pas prise plus tôt? Pourquoi j'ai laissé les choses arriver jusqu'à ce point-là? Pourquoi j'ai pas dit non alors que tu te retrouves à que tu as dit non plusieurs fois et que tu as dit stop plusieurs fois et que tu as essayé de toutes tes forces? Tu t'es retrouvée dans un cercle vicieux qui, là où il n'y avait pas de porte d'échappatoire.
Comment vous faites pour garder l'espoir dans tout ça?
Ben, l'espoir, tu l'as parce qu'il faut que chaque jour, tu te réveilles. Chaque jour, tu es là pour toi, en premier, pour tes enfants, parce qu'il n'y a personne qui va être là pour eux. Ils ne sont pas venus au monde pour subir ça. Tu n'es pas venu, toi, au monde pour qu'une autre personne te fasse vivre ça.
Aujourd'hui, ça serait quoi votre point positif, votre énergie positive?
Ben, je vous dirais, je vous cacherai pas que mon énergie, je la puise beaucoup de mes enfants. Le fait d'entendre que t'es la meilleure maman au monde, ça te donne une énergie de fou. C'est comme, tu te battras contre je ne sais pas quoi, et tu réussiras. Parce que tu sais que tu le fais pour une bonne cause, et pour des petits qui n'ont rien à faire dans toute cette histoire-là. On donne tout ce qu'on peut pour ses enfants, on essaye de faire le maximum, mais il y a toujours des moments de doute. C'est comme si tu n'arrives pas à faire le 100% de toi, si tu n'es pas dans ta bonne journée. Mais tu te dis, là, je suis là pour eux et je ne me fais pas comme comparer avec d'autres personnes. Moi, je donne le maximum que je peux et le meilleur que je vois que c'est le meilleur pour mes enfants.
Mm-hmm. Pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient peut-être dans une situation similaire où il y a encore de la violence post-séparation, c'est pas nécessairement facile... on ne voit pas nécessairement la fin des démarches. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces personnes-là?
Moi, je dirais que toute chose a son temps pour arriver. Il ne faut pas perdre espoir parce que perdre espoir, il n'y aura pas une autre... Peut-être que tu n'auras pas une autre chance que quelqu'un d'autre te donnera la main pour te soulever. Donc, si tu as la moindre petite occasion de te soulever, fais-le et ne regarde pas derrière toi. Le passé est du passé. Vis ton présent et améliore-le pour avoir un futur meilleur.
Moi, pour cette partie de l'entretien, je pense que j'ai couvert tous les sujets que je voulais aborder avec vous. Est-ce que vous auriez un dernier mot?
Un dernier mot que je dirais, c'est que les enfants ne sont pas venus pour subir. C'est comme, ils n'ont rien fait pour subir ça. Et les femmes ne sont pas des jouets pour des hommes. Donc, si on peut vivre en paix, ça serait la meilleure des choses. S'il arrive que tu n'es pas content avec ta partenaire, tu n'es pas contente avec ton partenaire, essayez d'éviter que ça soit devant les enfants.
Mais vraiment, merci de votre participation à ce balado. On est vraiment très contente d'avoir pu vous parler. Je pense que les personnes qui nous ont écoutés aussi, en tout cas, j'espère, repartent avec un message d'espoir que, oui, il y a eu la violence conjugale, mais il y a un après aussi.
Exactement. Il ne faut jamais perdre espoir. Je vous remercie, vous, de m'avoir écouté, de m'avoir invité là pour pouvoir m'exprimer. Moi, j'appréhendais vraiment, je croyais que je n'arriverais pas à parler et tous les sentiments qui remontent. Mais là, je me trouve assez sereine. Donc, je me dis que je suis dans la bonne voie de guérison et je l'espère pour toute personne.
Alors maintenant que nous avons abordé tous les thèmes reliés à la violence conjugale, nous avons pensé à faire un mot de conclusion avec notre directrice, Sabrina Lemeltier. Donc Sabrina est diplômée en travail social et en administration. Au cours de sa carrière, elle a travaillé auprès des enfants, des adolescents, des jeunes de la rue et en pédopsychiatrie. Depuis son arrivée à la Dauphinelle, elle a doublé la capacité d'accueil de l'hébergement d'urgence, créé un hébergement de deuxième étape composé de 4 appartements et bonifié le volet des services de prévention et des services à l'externe afin d'offrir des accompagnements personnalisés dans la communauté. Prochainement, une nouvelle maison de deuxième étape, la maison d'Evelyne, ouvrira ses portes avec une offre de 14 logements à moyen-long terme. Sabrina a également participé aux travaux du comité d'experts mandaté par le gouvernement du Québec sur l'accompagnement des victimes de violences conjugales et d'agressions sexuelles ayant abouti au dépôt, en décembre 2020, du rapport « Rebâtir la confiance ». En plus d'être directrice générale de la Dauphinelle, Sabrina est présidente de l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape depuis septembre 2020. Et moi, personnellement, je collabore avec elle au quotidien. Donc, bonjour Sabrina.
Bonjour Aglaé.
Alors, comme mot de conclusion, en fait, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que représente le balado? Pourquoi un balado cette année?
Le balado, on avait vraiment cette idée depuis quelques temps. C'est toujours comment rejoindre le plus de personnes, comment innover, comment parler à la communauté. Le balado, les balados en général prennent de plus en plus de place là, en termes de communication et 40 ans. 4 balados, une cinquième pour aller vers la prochaine décennie, c'était parfait.
Mm-hmm. Et puis, justement, tu es directrice générale quand même de l'hébergement. Qu'est-ce que ça représente d'avoir atteint 40 ans à la Dauphinel?
Alors, je ne suis pas là depuis 40 ans, je tiens à le préciser. Qu'est-ce que c'est, ben, c'est triste hein, d'être là depuis 40 ans et à la fois, c'est positif parce que il y a 40 ans, il n'y avait pas de service pour les femmes victimes de violences conjugales à la grandeur du Québec. La Dauphinel, ça a été deux chambres dans un appartement. C'est une communauté qui s'est mobilisée dans un quartier pour dire que ça n'avait pas de sens. Donc, il y a quand même une grande fierté dans l'évolution. Et puis, c'est des conseils d'administration, c'est des bénévoles, c'est des directrices, c'est des employés qui, au cours des 40 dernières années, ont maintenu, je dirais, à bout de bras pendant, je dirais, au moins 30 ans, parce que ça fait à peu près seulement 10 ans qu'on a un financement qui est adéquat. Jamais suffisant, mais au moins adéquat. La maison est sortie de la pauvreté puis a pu se concentrer sur ses services. Donc, de la tristesse et de la fierté. C'est sûr que moi, mon objectif ultime, là, même s'il est un petit peu fou, c'est que la maison disparaisse.
Mais oui, par question, on disparaît, ça veut dire qu'il n'y a plus de besoin pour une maison pour les personnes qui sont victimes de violences conjugales. Parlant donc de la prochaine décennie qui s'annonce avec nous, qu'est-ce qui attend la Dauphinel dans les prochaines années?
Alors, je ne décide pas tout seul, donc c'est vraiment le conseil d'administration de la maison qui regarde toujours l'avenir, qui regarde les besoins des femmes et des enfants et qui a pris aussi un axe que je trouve de plus en plus important de nommer, c'est-à-dire d'aller au-delà de l'hébergement. Donc, si on reste dans notre hébergement, ce qu'on fait très, très bien, ben on ne va pas mettre fin à la violence conjugale. Donc, je dirais, oui, la maison d'Evelyne, bien sûr, ça, des logements transitoires sécuritaires, il n'y en a pas à Montréal, plus de 75% des demandes sont refusées faute de place. Donc, ça, c'était un objectif qu'on a ciblé en 2019, qu'on va réaliser en 2023. Par contre, si on veut endiguer, combattre la violence conjugale, il faut qu'on soit présent dans la communauté. Donc, je dirais vraiment se tourner vers la communauté, continuer de développer nos ateliers, autant dans les organismes, les entreprises, informer sur les réseaux sociaux, utiliser toutes les possibilités qu'on a de sortir de nos murs pour porter un message de non-violence, de rapport égalitaire et de mobilisation, parce que à chaque féminicide, je pourrais d'avance écrire l'article. C'était un quartier tranquille, c'était une famille parfaite, il aimait beaucoup ses enfants quand il y a des félicides. Donc, on a quelque chose là qui nous donne quand même des indices d'action qu'on va pouvoir porter. Alors, j'ai vraiment l'impression que c'est là-dessus qu'on va se concentrer au maximum.
Et puis, je vais poser une dernière question que je pose à toutes les personnes qui ont passé au balado. S'il y a une personne qui nous écoute, qui est victime de violences conjugales ou qui connaît quelqu'un qui est victime de violences conjugales, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là?
De faire preuve d'humanité, d'empathie, de bienveillance, de lui dire pas trop de choses, juste de lui dire qu'on est là pour elle, de lui montrer surtout le non-jugement et de briser, peut-être en se dévoilant un petit peu. On a tous vécu des choses dans notre enfance, dans notre famille, avec nos partenaires. Donc, se dévoiler pour dire que cette image parfaite, là, qu'on nous vend sur la vie de famille, la vie de couple, cette performance qu'on a autant au travail que dans notre vie privée, que ben, c'est pas vrai. Et puis qu'on a le droit d'avoir des défaillances, on a le droit de souffrir. Donc, de garder cette porte-là pour qu'elle sente qu'on va être là pour elle sans la juger.
Sabrina, merci beaucoup d'avoir donné de ton temps pour faire ce mot de la fin de conclusion des balados de la Dauphinel.
Merci à toi, Glaire.
Merci d'avoir été à l'écoute du balado 40 ans pour elle. Nous soulignons la collaboration de tous nos invités et nous les remercions de contribuer avec nous dans la lutte contre la violence conjugale. Nous vous invitons à partager nos épisodes afin de rejoindre le plus de personnes possible. Sans le savoir, tout le monde peut être victime de violences conjugales, que ce soit votre famille, vos proches, vos collègues, vos amis. Si vous ou une personne que vous connaissez avez des questions, des inquiétudes concernant une situation qui pourrait être en lien avec de la violence conjugale, de la violence familiale ou de la violence en post-séparation, n'hésitez pas à contacter notre ligne d'écoute, Contactelle, au 438-522-9222.
2-6-4. Vous pouvez également nous écrire au courriel prévention@ladauphinel.org et SOS Violence Conjugale est également disponible pour vous au 1-800-363-9010. En cas d'urgence, faites le 911 immédiatement.